On en jase, votre émission du midi sur les ondes de Boulevard 102.1. Le trio qui est avec vous était là en émission spéciale élection hier. Ah, c'était plaisant hier soir d'être à l'antenne avec vous, chers auditeurs. D'ailleurs, 418-971-1021 pour interagir avec nous. Évidemment, on va revenir sur cette élection municipale dans le caucus Iacarini avec Antonine. On va avoir Irénée également, Rutema, qui va être avec nous aujourd'hui pour parler de ceci. Mais on va avoir un de nos chroniqueurs préférés aussi maintenant, Gilles Levasseur, qui va venir nous parler de Mark Carney en Chine. Hey, c'était historique cette rencontre-là, puis ça va donner quoi? Ça faisait 8 ans que le premier ministre du Canada n'avait pas rencontré le président chinois. Alors, on va parler de ça. Catherine Fournier, l'extraordinaire mairesse de Longueuil, va être avec nous. Et on finit ça avec Patrick Scalabrini, le coach des Capitales. On a le cœur brisé depuis samedi. Oh, les amateurs de baseball ont le cœur brisé. Antonine me fait signe. Non, non, non.
Moi, ça va bien.
Je te le dis. J'ai le cœur brisé. J'étais debout dans mon salon. J'avais installé l'écran géant d'une ma blonde que je remercie beaucoup. Et je me suis levé pour l'hymne national, la main sur le cœur, la casquette dans mes mains comme les joueurs des Jays. Et j'ai chanté le « Au Canada ». J'ai poussé le « God keep your name ».
Ouais, hein, on n'était vraiment pas là-dedans, nous, de notre côté. Oh. Mais on était derrière les fans des Jays.
Ça n'a pas fonctionné malgré tout ça. J'ai pas réussi à inspirer suffisamment mon équipe.
Parce que c'est contre nature de chanter au Canada avec une casquette des Jays dans les mains.
J'avais mon hoodie des Jays sur le dos.
Ça marche pas, cette affaire-là.
Que j'ai mal. J'ai une chance que j'avais une belle soirée électorale avec toi, Pascal Cévé, avec Antonine, avec Farnel, Max, Audrey, Mathias. Parce que sinon, je ne sais pas si je serais rentré travailler ce matin.
C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que tu nous dis là? Tu es bien trop passionné pour ça. Mais je comprends la déception, puis on la sentait. Les fans étaient très vocaux là, sur les réseaux sociaux. Les bars sportifs étaient pleins. Pour le football, moi, je suis allée faire un petit tour dans un bar sportif hier en après-midi. Habituellement, il y a du monde. Il n'y avait personne. Ouais. Ça veut dire que la fête a été faite avant. Là. Les gens n'étaient plus capables d'en prendre.
Ah, je ne sais pas ce qu'on va faire avec nos Jays qui ont passé à 2 retraites gagnées à Série mondiale.
Super belle saison pour les encourager.
Oui, exactement. On est fiers des Jays. On va en parler avec Patrick Scalabrini parce que lui est habitué des championnats. 4 championnats, mais il en a déjà perdu quand même en finale. Fait qu'on va lui demander comment une équipe se relève de ça et c'est quoi le sentiment après ça dans le vestiaire des joueurs. Donc ça va être en fin d'émission, mais vous le savez, à l'émission dans Jazz, on commence toujours l'émission avec le...
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonine Iacarini.
Bon, 418-971-101, vous êtes comment, vous autres, à midi, là? Êtes-vous encore frustré que le maire Marchand ait passé aussi fort? Vous dites-vous, ben, moi, j'ai voté Marchand, finalement, parce qu'il a fait la meilleure campagne, puis je suis bien content. Ou êtes-vous des gens qui disent, bof, peu importe, ça, avec la campagne électorale qu'on a eue, Marchand est là, puis je vais vivre avec. Textez-nous 418-971-1021, on veut avoir votre ressenti. Antonine Iacarini, tu étais avec nous hier soir, 49%, Bruno Marchand, presque 50%. Oh, je me pensais ça.
En début de soirée, c'était 60%. Ça s'est replacé un peu plus tard, ça s'est redistribué, c'est devenu un peu plus normal, mais quand même, là, M. Marchand, il y a quelques mois, on se demandait si ça allait être le premier maire de Québec à ne pas être réélu, un maire qui se représente. Finalement, la campagne électorale, on voit que les campagnes électorales, ça change quelque chose. Tu sais, les sondages entre les campagnes, on les lit, c'est intéressant, etc. Mais c'est vraiment pendant la campagne électorale qu'il y a des choses qui se décident, les vraies personnalités de chacun des candidats ressortent, on voit les propositions, puis ça fait bouger l'aiguille. Là. Donc, il ne faut pas toujours trop se fier aux sondages en dehors des campagnes électorales.
18 comtés qui reviennent à Bruno Marchand sur 21. Les 3 autres sont détenus par Respect citoyen. Je vais t'avouer qu'hier, en début de journée, je me disais « Ouais, ça va être une majorité pour Bruno Marchand », mais je la voyais vraiment plus courte et avec pas un aussi haut pourcentage.
Moi, dans mon petit pool, là, j'avais un petit peu plus de districts que je donnais à Respect citoyen, puis j'avais donné un district à Leadership Québec. Je me disais « va être capable d'aller en chercher un ».
Ouais, je pensais que Melançon passerait, honnêtement, dans
une
son
bonne
district.
Bonne partie de la soirée, on a pensé que Leadership Québec allait aller chercher Chute-Montmorency, mais non, finalement, là, Québec fort et fier est allé chercher ce district-là également. Mm-hmm. Effectivement, ça fait une petite opposition, hein, parce que, ben, premièrement, je trouve que c'est une bonne chose qu'il y ait une opposition.
Ben oui, clairement.
À l'hôtel de ville. C'est important pour la démocratie, pour que les gens qui n'ont pas voté aussi pour Bruno Marchand aient l'impression d'être représentés. Ils vont avoir Stéphane Lachance et ses acolytes qui vont pouvoir porter cette voix-là. On a deux partis qui sont disparus de l'échiquier avec Québec d'abord et Transition Québec.
Ouais.
Jackie Smith qui a perdu son district. Claude Villeneuve qui a perdu son district. Il était chef de l'opposition depuis 4 ans.
Donc... Québec d'abord, c'est une varlope. Là. Claude Villeneuve, 3e dans Mézeray. Véronique Dallaire, 4e dans Les Saules, Les Méandres. On avait vu ce parti-là s'effriter avec énormément de départs en cours de route. Ça a juste été la continuité de cette descente aux enfers.
Oui, puis tu sais, au municipal, les partis, ça se fait, ça se défait, ça s'articule autour des personnalités qui se lancent à la mairie. C'est pas anormal, mais c'est vrai que ça a été très difficile pour cette formation politique-là de continuer d'exister avec des positions sur les sujets les plus importants qui n'étaient pas très différentes, en fait.
Exactement.
Du parti du maire.
Des positions similaires à Québec, fort et fier. On écoute Stéphane Lachance, justement, en scrum hier. C'est notre chum Mathias qui a récupéré cet audio-là, alors qu'on connaissait à peu près tous les résultats.
Qui était plus grande que ça, on se le cachera pas, mais quand même, on est quand même heureux d'être là. Je pense qu'au départ de cette campagne électorale-là, on était, il y avait M. Hamad qui était bien en avant de nous, et M. Hamad n'est pas du tout là. Aucun membre de son équipe qui est élu. Alors, on nous a souvent parlé de l'expérience, mais je pense qu'on a montré que la détermination, ça va encore plus sa place à ce niveau-là.
On lit votre déception.
C'est sûr que je peux pas être enchanté de ce qui arrive. Mais écoutez, moi, j'accepte. J'avais dit depuis le début, j'accepte le rôle que les gens allaient me confier. Donc, avec mon policier, on a réussi à remporter Val-Bélair, Sainte-Thérèse-de-Lisieux, Lac-Saint-Charles. Dans des monts, c'était pas encore joué là, avec M. Mercier. On espère que peut-être on aura un quatrième candidat. Mais on va accepter notre rôle, puis on va le faire au meilleur de nos connaissances.
Finalement, dans des mots, c'est Québec fort et fier qui est passé, ce qui fait en sorte que Respect citoyen, Stéphane Lachance dans Val-Bélair, Marc Roussin en Haute-Saint-Charles et Sainte-Thérèse-de-Lisieux avec Mélanie Sauvé, qu'on a eu en entrevue ce matin dans Marceau le matin. C'est disponible sur le blvd.fm. Je le comprends d'être déçu, mais on s'attendait à quoi? T'sais, 23%, opposition officielle. Est-ce qu'on est trop en vision tunnel du côté de Respect citoyen parce qu'on parle à notre base fait énormément de bruit sur les médias sociaux? Mais ça nous empêche de voir le grand portrait?
Bien, ça nous empêche d'accéder au pouvoir, mais si tu regardes par rapport à la campagne que Sam Hamad a faite, tu sais, Respect citoyen, les positions sont très différentes de celles du Parti du maire.
Clairement.
C'est très tranché. Alors que quand on regardait Leadership Québec, le parti de Sam Hamad, ben on disait non au tramway, mais ça va être un SRB. Tu sais, des fois, c'était un peu moins...
Au niveau du cadre financier, ça se ressemblait beaucoup, Leadership Québec et Québec fort et fier.
Ça se ressemblait un peu plus. Donc, je trouve que Stéphane Lachance a réussi à davantage se différencier. Puis le fait aussi qu'il voulait être chef de l'opposition si jamais il n'était pas maire, contrairement à Sam Hamad qui n'avait pas de colistier. Les colistiers, pour ceux qui comprennent pas, qui connaissent pas le concept, c'est que dans le fond, étant donné que les maires sont au suffrage universel. Si tu perds ton élection comme maire, ben les candidats n'ont pas de district. C'est pas comme au provincial où est-ce que tu as une circonscription. Alors, tu as un colistier dans un district qui va se tasser et te laisser la place si jamais tu perds ta mairie pour que tu puisses devenir conseiller municipal et, dans le cas de Stéphane Lachance, chef de l'opposition. Moi, je pense que ça a précipité la chute de Sam Hamad aussi parce que quand on voit que le maire Marchand est tellement d'avance dans les sondages, si tu détestes le maire Marchand, si tu veux voter contre lui, même si tu le détestes pas, mais tu n'es pas d'accord avec ses positions, bien, tu vas t'accrocher après quelle locomotive? Après le gars qui c'était maire ou rien, ou après le gars qui dit « moi, je vais rester comme chef de l'opposition puis je vais porter votre voix ».
Ça rejoint Isabelle qui marque « ah, comme tu as dit, bof, mais ma stratégie, c'était de voter pour avoir une opposition, alors j'ai gagné mes élections ». Donc, on a plusieurs réactions. On continue à réagir au 418-971-1021. On a Fred qui dit « Ouais, les gens sur les médias sociaux, il y en a une couple qui doivent roter aujourd'hui. » Et on a Carl qui dit « Moi, mon choix avait été fait en juin. J'ai déménagé à Lévis. Vive Stephen Blainey et vive Lévis. » Donc, c'est quelques réactions là, qu'on a eues. Justement, je vais revenir sur Fred avec les médias sociaux, ces gens-là qui font énormément de bruit. Ils nuisent à Respect citoyen, en fin de compte. Il faudrait que ces gens-là se calment.
Ben, moi, je pense que c'est jamais vraiment utile pour un parti politique d'avoir des militants trop intenses, qui sont dans l'insulte, qui sont dans le harcèlement, etc. Ça devient toujours un boulet pour les élus. Surtout, tu sais, quand tu es juste sur un parti politique qui vise à faire des vagues, puis que tu n'as pas d'élus, tu n'as pas de rôle officiel, c'est sûr que tu es un mouvement, dans le fond, dans ce temps-là. Puis là, tu as des gens qui sont bien crinqués, puis ça peut te sembler utile. Mais une fois que tu as des élus qui répondent à des journalistes au quotidien, qui sont face à leurs contradictions, bien d'avoir des militants qui sont tellement intenses puis qui attaquent les autres sur les médias sociaux, puis qui ne sont pas toujours dans la ligne de parti.
Hein, non, pas du tout.
Bien, ça peut devenir un boulet, puis ça peut devenir des distractions, finalement, pour ces chefs-là. Il y a plusieurs partis qui ont des militants qui sont très, très intenses. Là, sur d'autres paliers gouvernementaux, on en voit des fois, puis c'est pas toujours à l'avantage.
Oh oui, puis ça peut être à droite comme à gauche. Oui, là, on n'a qu'à penser à des militants de Québec solidaire. C'est pas toujours très poli sur les médias sociaux non plus.
Pas toujours non plus. Cela dit, c'est une autre des leçons de cette campagne électorale, c'est que si on se fiait sur les médias sociaux pour essayer de voir qui allait gagner, on a une vision un peu qui est déformée parce que les gens les plus choqués sont ceux qui parlent le plus fort, qui sont des fois le plus motivés, mais c'est pas toujours représentatif de la majorité.
Oui, puis je vais me permettre un commentaire très philosophique. La haine gagnera jamais, gang. C'est aussi simple que ça.
C'est rare, en tout cas, que ça gagne la haine. Puis on a vu que, tu sais, on le voyait dans les commentaires qu'on recevait au fur et à mesure de la campagne municipale, que quand il y a eu la chicane entre Stéphane Lachance et sa maman, puis c'est très acrimonieux. Bien, on en a reçu beaucoup des messages de gens qui disaient « ben moi, je vais aller du côté de l'adulte dans la pièce », puis ça, c'était Bruno Marchand, qui a fait une campagne plus positive, pas vraiment d'attaque personnelle là, de la part de M. Marchand au fur et à mesure de la campagne. Puis finalement, ça a porté ses fruits. Là.
Il focussait sur ses affaires. On a beaucoup vu que, tu sais, même des annonces, on en riait un peu, mais pas rire de ce qu'il faisait. Mais quand on est en campagne électorale, puis on est rendu au chaud, là, au point chaud, puis qu'on est en train de parler de terrain de tennis, ça peut surprendre. Habituellement, ça, c'est quand t'es élu, puis t'as déjà commencé un peu ton mandat. Fait à quel point il était confortable, ça se voyait dans ce qu'il annonçait aussi. Puis à quel point il était focus sur qu'est-ce que moi je veux faire, comment est-ce que mon parti travaille actuellement. Et ils se souciaient très peu de ce qui se passait à l'extérieur parce que je pense qu'ils voyaient eux-mêmes qu'ils étaient en train de se tirer dans le pied puis de laisser une belle place à Bruno Marchand. Hier, dans le rassemblement, ce qui était très tangible aussi, c'est un bon. On prenait un peu pour acquis là, qu'on allait l'avoir cette soirée-là. Avec raison, on ne peut pas leur en vouloir. Mais l'autre affaire, c'est ils sont aussi conscients. Du moins, moi, c'est ma perception de ce qu'ils m'ont dit puis ce qu'ils ont répondu, que ce n'est pas nécessairement leur élection. Qu'il y a eu une élection qui sont majoritaires parce qu'il y a eu un contexte particulier dans cette campagne-là qu'on a parlé en long et en large, mais ça, qu'ils vont devoir prouver des choses. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va faire comme le premier mandat de Bruno Marchand où il était un petit peu humble à essayer de comprendre c'était quoi la politique, c'était quoi le métier, tout ça, puis à un moment donné, une fois que t'es dans tes bottines, le ton change, puis la hausse des taxes, puis nous, on fait ça comme ça. Est-ce que c'est ça qui va arriver? C'est une bonne question, mais il a entendu que pour certains citoyens, oui, on lui donnait une deuxième chance. Mais c'était pas nécessairement parce qu'on avait donc bien cru en lui lors du premier mandat.
Il a fait preuve d'une belle humilité, Antonine. Là, ça reste à voir, comme Pascal le dit, à savoir si ça va demeurer. Mais je pense qu'il a appris de son premier mandat puis de ses deux premières années où il a mangé une méchante claque, autant par la CAQ qui est au-dessus de lui que par la population.
Oui, ça a été dur avec sa relation avec le gouvernement du Québec, notamment sur le dossier du tramway et du troisième lien. Hein, parce que même si on en rit et qu'on y croit plus bien au troisième lien, ça a créé pas mal de vagues.
Ben voyons donc, on va scinder Vanier en deux. Ah ben allez, tout pendant qu'on parle de boulevard urbain sur Laurentien puis l'autoroute Montmorency, on va scinder, on va transformer Pierre Bertrand
quand
en autoroute.
Ça, hein, quand, mettons? Mettons, quand? Là, qu'il y a un calendrier, là, tu verras ça quand, toi?
Ah, la CAQ? Ben, la CAQ a toujours eu des calendriers où on précipite les choses.
Oui.
Moi, d'après moi, ça va commencer à creuser...
Au printemps.
Pour l'élection.
Donc, pour revenir à Bruno Marchand, ça a brassé pas mal. Il y a eu des moments pendant son mandat où on le voyait en entrevue, on le voyait dans des événements. Il avait l'air fatigué. Puis là, je parle pas physiquement, je parle plus moralement.
Moi, l'automne 2023, il avait décidé de se laisser pousser à la barbe. Il avait les cernes jusqu'en bas du menton. Il l'avait avoué, d'ailleurs, en conférence de presse, avant de partir pour les vacances de Noël, en disant... Là, j'ai mis un genou à terre, je m'en vais en vacances, puis je reviens telle date parce que là, j'ai plus d'énergie.
Puis là, c'est une fatigue qui paraissait à ce moment-là, puis qu'il a nommé, mais on sentait aussi dans son niveau de patience, disons.
Il était très aigri à ce moment-là.
Face aux questions des journalistes, il répond toujours, en passant. Il fait beaucoup d'entrevues. C'est quand même quelqu'un qui est accessible, mais on sentait un peu plus d'impatience. Après ça, des sorties de l'opposition où on voyait aussi les sorties, je pense, aux commerçants dans Saint-Roch, notamment, où la réaction de M. Marchand était des fois un peu... disons, un peu bête, là, tu sais, de dire « on crée des problèmes, est-ce qu'il n'y en a pas? » Tu sais, c'était pas très à l'écoute, je dirais. Puis là, quand la campagne électorale a commencé, il y a eu un changement de ton. Puis il est devenu le gars de bonne humeur. C'était la campagne de la bonne humeur, finalement, cette campagne-là, avec une impression que ça va bien. Tu sais, comme tu disais, Pascal, beaucoup de propositions, parce que tu veux laisser une impression générale que c'est pas parce que tu es là depuis 4 ans qu'on va juste parler de ton bilan. Tu veux que les gens aient les yeux aussi tournés vers l'avenir, de dire on n'a pas terminé le travail, etc. Donc, c'est assez bien réussi comme stratégie de communication de la part de Québec, forte et fière.
T'en penses quoi? On a un auditeur qui nous écrit « Hey, laissez-moi vous dire, attendez, il a déjà fait allusion pour des augmentations de taxes. » Bon, il l'expliquait dans sa campagne qu'elle a augmenté toujours à l'inflation au plus élevé. Mais moi, ce qui me surprend, c'est dans cette campagne-là, la taxe à l'immatriculation, finalement, de 60$ par char, ça n'a pas eu d'impact, zéro impact, alors que ça avait fait une tollée dans la population. Comment t'expliques ça qu'un an plus tard, on dirait que tout le monde l'a oublié? C'est ça en politique qu'on oublie après 6 mois?
Bien, premièrement, oui, on a la mémoire courte. Deuxièmement, encore une fois, si tu es très choqué par la taxe sur l'immatriculation, tu vas le dire fort. Si ça ne te dérange pas vraiment, puis que ça ne t'empêche pas de dormir la nuit, tu vas-tu appeler quelqu'un pour lui dire, puis sortir dans les médias, puis faire des statuts Facebook pour dire « Moi, ça ne me dérange pas vraiment de payer 60$ de plus par année. » Non.
Oui, puis en même temps, cette taxe-là, tu reçois ton compte. Là. Je sais, je l'ai reçu, puis ma blonde l'a reçu la semaine passée. Tu ouvres l'enveloppe, tu sais, tabarouette, comment ça me coûte cher de même? Mais une fois que tu l'as payé, t'as oublié
aussi vite. Par contre, tu sais, puis là, évidemment, chacun a des budgets différents, puis il y en a pour qui 60$, ça fait une différence, et honnêtement, je le comprends. Et j'ai entendu des gens dire, moi, je pensais voter pour Marchand. En fait, j'ai voté pour Marchand la dernière campagne, mais parce qu'il a mis une taxe au chat. Crime, je voterai pas pour lui.
Ouais.
C'est pas parce qu'elle était chère, c'est pas parce que c'est des gens qui n'ont pas les moyens, mais par principe.
C'est le réflexe de taxer, t'as raison.
Oui, il y a des gens qui étaient bien fâchés de ça.
Ça dérange beaucoup, vois-tu. Anthony, j'ai fait un sondage sur mon Instagram personnel, donc on s'entend.
Non scientifique, mais quand même.
Et voilà. Et hier, je sondais aussi des gens pendant la soirée électorale. Et plusieurs dénonçaient le fait que ça a été une campagne vraiment axée sur le tramway puis la chicane.
Mm-hmm.
On a perdu de vue les vrais débats qu'on aurait dû avoir. Non seulement on n'en a pas beaucoup parlé, mais on ne sait pas ce qui nous attend nécessairement, autre que les réponses des chefs. Puis dans ce temps-là, quand tu fais une entrevue one-on-one avec un chef, ben tu entends la réponse, mais ce n'est pas nécessairement dans un grand débat ou encore pendant toute une campagne électorale. Puis les taxes sont revenues à la surface, le ton est revenu à la surface, on l'a abordé. La façon de gérer Saint-Roch en ne répondant pas aux questions, c'est énormément sorti. Tout ce qui s'en vient aussi pour construction, développement économique, développement immobilier, développement des affaires. Il y a énormément de commerçants puis de gens en affaires dans la ville de Québec qui disent majorité pour Bruno Marchand, qu'est-ce qui va advenir? Parce qu'il est très bon pour tout ce qui est environnemental, développement de pistes cyclables, développement de la ville. Mais il dit, on a eu des problèmes au niveau du déneigement, on a eu beaucoup de problèmes au niveau des petites choses du quotidien.
C'est son point faible, le développement économique. Et Sam Hamad et Stéphane Lachance n'ont pas été capables de capitaliser là-dessus. Et je me souviens, j'ai assisté au débat à la Chambre des commerces et quand on est sorti, j'ai jasé avec plein de gens du monde des affaires qui m'ont dit « Oh my God, c'était donc bien mince les propositions de Stéphane Lachance.
Ouais. »
Il a perdu énormément à ce moment-là.
Mais je pense qu'ils ont surestimé la faiblesse de Bruno Marchand sur l'économie, en fait.
Ouais.
Parce que même si c'est pas un maire qui est étiqueté comme étant économique, en débat, il était quand même très solide. Il connaît son affaire, il a ses chiffres, il maîtrise ses dossiers et il avait l'air plus en selle, finalement, que ses opposants. Je pense aussi, puis on verra, puis ça va vraiment être à surveiller, drapeau jaune pour Bruno Marchand. On l'a eu en entrevue plusieurs fois. Il se fait toujours poser la question sur son écoute, parce qu'il est très déterminé. Hein, puis il dit souvent, là, moi, je garde le cap, puis c'est sûr qu'il va y avoir des critiques, mais je garde le cap. Tu peux avoir l'air aussi déconnecté un peu quand tu parles comme ça. Et notamment, tu sais, par exemple, quand on fait un nouveau projet de piste cyclable puis que ça enlève des places de stationnement. Exemple fictif, mais vrai, en même temps, Il nous l'a expliqué aussi en entrevue qu'à un moment donné, il va toujours avoir quelqu'un de pas content. Là. À chaque fois qu'on fait un changement...
Ouais, quand il dit « je peux mettre un stationnement 20 minutes, une heure ou deux heures ».
Exactement. Par contre, il va avoir le devoir de mieux l'expliquer, j'ai l'impression, parce que c'est peut-être une des leçons de son premier mandat. C'est qu'effectivement, à un moment donné, il faut trancher. C'est impossible d'avoir l'unanimité de tout le monde. Mais explique-le, par exemple, puis explique le processus, communique-le pour que les gens comprennent que tu l'as évalué. Ça a été évalué. On les a écoutés, ces gens-là, et on n'a pas décidé d'aller dans la direction qu'ils souhaitent. Et voici les
pour
raisons.
Pour ces raisons-là, au lieu de perdre des plumes, ils pourraient les conserver sans nécessairement en gagner. Je trouve ça tellement important, ce que tu dis, Anthony.
Oui, avec un bon plan de communication. Ça sort par texto. Il y a des gens qui n'ont pas oublié la taxe à l'immatriculation. Il y a d'autres gens qui nous parlent du fameux tramway. Et là-dessus, je vous fais entendre Stéphane Lachance à chaud après, justement, les résultats d'hier.
Ben écoutez, moi, je dirais toujours que c'est un mauvais projet. Par contre, les gens qui étaient contre le tramway devaient s'exprimer. J'ai forcé d'admettre qu'ils ne l'ont pas fait. Pour le reste, je veux dire, à partir du moment où tu ne t'exprimes pas, tu ne peux pas chialer. Alors, mais moi, je ne changerai pas de discours au niveau du tramway. C'est un mauvais projet, mais on doit composer avec les résultats.
Est-ce que c'est vraiment le vote anti-tramway qui n'est pas sorti ou énormément de gens qui se sont dit « sais-tu quoi? » Ce projet-là m'emballe pas tant que ça, mais je vais quand même voter pour Bruno Marchand parce que c'est lui qui a fait la meilleure campagne.
Les deux peuvent être vrais. Ça peut aussi être « je n'aime pas le projet, mais c'est pas ma priorité de le bloquer non plus ».
Non, c'est ça.
Ensuite, il y a une autre affaire avec l'électorat de Stéphane Lachance puis l'approche de ces partis plus populistes-là là, qui aliènent les médias puis qui aliènent un peu... Tu sais, ils ont un discours anti-élite puis les politiciens.
Puis là, c'est de la faute des médias. Puis là, j'invite pas Le Soleil. Puis là, j'invite pas Radio-Canada. Puis blablabla.
Moi, je pense qu'à un moment donné, quand t'es un parti comme celui-là, et que tu t'adresses à un auditoire qui a décroché de la politique puis qui ne croit pas puis qui est cynique, mais il faut quand même que tu fasses un effort pour les amener voter après. Parce que si tu entretiens trop cette colère-là puis cette aliénation-là, finalement, ton vote, il sortira pas. Que les gens demeurent tellement décrochés qu'en fait, ils veulent même plus participer au processus démocratique. Ça serait vraiment intéressant de faire un sondage sur qui a voté, qui n'a pas voté et leur allégeance à chacun des partis. Je suis pas certaine que Respect citoyen a réussi à faire sortir son monde voté tant que ça.
Je suis d'accord. Et à l'inverse, avec la chicane qu'il y a eu entre Respect citoyen et Leadership Québec, moi, je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui sont sortis voter pour dire « Hey, c'est pas vrai que ça va être ces deux-là qui vont gérer à la ville, mais aller voter pour Marchand. »
Sans être en accord avec son plan.
Puis parce qu'on n'avait pas beaucoup débattu des autres choses que du tramway, ben ça n'a pas retenu ces gens-là d'aller voter pour Bruno Marchand. Les candidats indépendants, ça a été intéressant aussi dans certains districts de voir comment ils réussissaient à se placer dans tout ça. Mais il est conscient. Moi, j'ai senti que Bruno Marchand était conscient que ce n'était pas que pour son parti, ses idées et sa façon d'être qui étaient là. Mais il est prêt, je pense, à faire un autre 4 ans avec le couteau entre les dents. Puis tu sais, mini parenthèse, là, vous parliez du ton, vous parliez de la fatigue de M. Marchand puis tout ça. Première sortie publique avec sa conjointe là, hier, là, tu sentais que c'était d'une toute autre énergie que ce qu'on avait.
Tout feu, tout flamme.
Puis c'est pas juste une question romantique, c'est pas une question, mais ça joue aussi dans la vie d'un politicien là, pour la suite des choses. Qui est là et comment il se sent au quotidien?
Carl, qui est déménagé à Lévis, nous écrit « Le vote anti-tramway n'est pas sorti car les porteurs du message n'étaient pas les bons. Personne ne veut être associé à Respect citoyen. » Puis en effet, avec leurs partisans sur les médias sociaux. On change de sujet, les médecins, qu'est-ce qui se passe là? On fait des webinaires, Antonine, on se parle entre nous autres, puis là, on est en train de parler d'esclavage.
Bon, là, le gouvernement a passé sa loi sous Bayon, il y a eu toutes sortes de sorties, là, vous avez sûrement vu toutes sortes de médecins sortir dans les médias, expliquer comment le projet de loi allait affecter négativement un paquet de choses, etc. Là, depuis dimanche, ça a été l'élection municipale, ça fait un peu d'ombrage à tout ça. Moi, j'ai l'impression que M. Legault et M. Dubé, ça leur donne l'occasion de respirer entre deux vagues d'eau.
En fait, ouf.
on les a peut-être sauvés de la noyade ici, là, avec les élections municipales.
On parlait des cernes de Bruno Marchand, là. peut-être récupérer un peu de peau pour Christian Dubé parce que lui aussi, ils sont pas mal bas. Là.
Ah oui, il a l'air fatigué. Mais cela dit, pendant qu'on en parle un petit peu moins, ben, il y avait des médecins hier, tout le monde en parle, mais personne n'en parle justement parce qu'on était tous les yeux rivés sur les élections municipales. On a mis la main sur un enregistrement d'un webinaire de la FMSQ, donc les médecins spécialistes, dans lequel ça nous donne un indice de comment on craint que les médecins, là, mais un choix de mots pour expliquer le projet de loi qui est un peu particulier.
On écoute ça, ça dure 1 minute 31 secondes.
Un médecin qui, dans les circonstances là, d'une loi contraignante comme ça, avec un état policier, qui dit, moi, dans ces circonstances-là, là, je ne suis plus capable d'assumer le même rythme. J'en peux plus. Il faut que je ralentisse ou il faut que j'abandonne certains aspects de mon travail sans concerter personne. J'en ai juste marre. Puis tout seul, moi-même, je décide d'arrêter certaines choses ou je diminue ma charge de travail parce que je n'en peux plus. Cette personne-là, est-ce qu'elle peut faire ça?
Absolument.
Donc, c'est clair pour tout le monde. Si vous vous sentez incapable de faire quelque chose, vous savez, c'est pas de l'esclavagisme, là, hein? Alors, vous avez encore des libertés qu'on va défendre, puis dans ces circonstances-là, si vous vous voyez imposer des amendes ou des sanctions ou des réprimandes, nous allons vous défendre.
État
ça, il faut
policier.
Que ce soit clair, là. Ce n'est pas un goulag. Ce n'est pas un état policier. On va le contester, on va le combattre, on va le gagner. Alors, si vous vous sentez incapable, vous, individuellement, pas pour faire moyen de pression, parce que vous êtes écœuré, bien, vous avez le droit d'être écœuré, puis vous avez le droit de baisser votre rythme, parce que c'est pas une prison.
Esclavagisme.
Goulag. État policier.
Ça n'a pas de bon sens.
Bien, je trouve que la loi 2 va trop loin, mais là, on va trop loin des deux bords.
Sens-tu encore la polarisation? Tu sens-tu à quel point qu'on est à des kilomètres encore?
Qui va être l'adulte dans la pièce? Puis là, je fais un parallèle avec la campagne électorale à Québec où il y a plein d'auditeurs qui nous ont texté pour se dire « Hey, je vais voter pour Marchand parce que c'est lui l'adulte dans la place. » Pendant que les deux autres font leur petite chicanette de maternelle, « Mon père est plus fort que le tien. » Lui, il propose puis il avance avec la ville. Ça va être qui l'adulte? Ça va-tu être Christian Dubé? Ça va-tu être le docteur Oliva? Ça va-tu être le docteur Amiot? Il n'y en a pas d'adultes présentement.
On pas
c'est ce qui est triste.
Donc, c'est un webinaire dans lequel, dans le fond, les médecins pouvaient s'informer sur le projet de loi 2. En passant, le gouvernement aussi fait des webinaires d'information pour les médecins pour expliquer comment ça va fonctionner et les fédérations de médecins encouragent les médecins à ne pas s'y présenter.
Ça fait pas de sens.
Mais, gars, tu vois-tu là? Ils veulent pas. Ils disent que c'est de la propagande de toute façon. Vous savez déjà tout ça, etc. Et là, on fait des webinaires parallèles. Il y avait un avocat qui est là puis qui leur explique qu'est-ce qu'ils peuvent faire et qu'est-ce qu'ils peuvent pas faire. On les encourage aussi à arrêter de travailler puis à dire c'est pas grave si vous poignez des amendes, on va vous défendre.
Ouais. Mais c'est parce que ce qui fait pas de sens, c'est que tu as un webinaire organisé par le gouvernement qui va expliquer comment tes primes, à l'AC et tout ça va être fait. Fait que là, tu vas pouvoir vraiment faire ton calcul à savoir, j'en perds-tu 15, 45, 50% ou j'en perds pas pantoute. Puis là, ta fédération dit, participe pas à ça, c'est de la bullshit, mais on va te faire participer à un webinaire avec un avocat qui va t'expliquer comment contourner la loi. C'est ça qui fait pas de sens.
C'est ça qui fait pas de sens. Puis on va aussi encourager de continuer à mettre des anecdotes dans le journal où on dit que les médecins, avec la nouvelle loi, vont nous payer 26$ de l'heure puis des affaires de même, qui sont peut-être vraies, là. C'est juste que je ne vois pas dans quel monde ne pas être bien informé sur la loi est une bonne chose. Et bien, continuer comme ça, de craquer les médecins, c'est sûr que de se faire rentrer une loi spéciale à travers la gorge en baillon, ça n'allait pas faire une super ambiance. Là. On est tous d'accord là-dessus. Donc, à ta question, est-ce qui va être l'adulte dans la pièce? Moi, j'entends pas de signaux du côté du gouvernement qu'on va faire un pas de
côté.
Moi
non plus.
Tu sais, de dire, par exemple, les sanctions là, dont on parle. Là. Si les gens partent à la retraite de manière organisée ou essaient de s'en aller, OK, on va faire un pas de côté là-dessus, on va les retirer. Parce que, honnêtement, retenir des gens avec des chaînes puis des menottes, là, ça n'a jamais rien donné de bon.
Oui, menacer.
Ça sert à rien. Tu sais, si tu veux retenir les médecins, ben ça va être avec... Puis tu sais, il n'y a pas juste l'argent, là. Il y a l'organisation de répondre à certaines de leurs demandes, d'améliorer le système. Puis on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Il allait de toute façon avoir des médecins qui allaient quitter à partir du moment où il allait avoir de la rémunération qui est liée à des indicateurs de performance. On le savait, mais d'attacher le monde avec des menottes, là, ça n'a jamais fonctionné. Ça ne marche pas. Mais pour l'instant, on n'a pas de signaux de la part du gouvernement qu'on va relâcher un petit peu de lest sur les... Puis on entend le ministre dire on est encore ouvert à négocier. Ils n'ont pas le choix de dire ça. C'est légal. C'est-à-dire que vu que ça va être envoyé devant les tribunaux, il faut que le ministre démontre constamment que
de
la négociation... De l'ouverture.
Ah, je
c'est
comprends.
C'est les avocats, qui disent ça. Fais ça.
Je comprends la stratégie. On termine l'excellent caucus Iaccarini du lundi au jeudi dans l'émission On en jase à partir de midi avec... On avait le chef neurologue de l'Enfant Jésus, Martin Savard, en entrevue avec nous dans Marceau le matin. On va terminer avec quelque chose qui n'a pas de sens, c'est Doug Ford.
Mais des gens qui vont partir... Moi, j'ai un collègue qui a appelé Doug Ford.
Okay.
Il a parlé à Doug Ford.
Directement?
Oui, c'est directement. C'est pas des jokes, là. C'est quelqu'un qui travaille à le même hôpital que moi. Il a parlé. Puis on lui a dit, c'est parfait. Mon ministre de la Santé va te rappeler le lendemain. Puis il l'a rappelé. Puis ainsi va la vie. Je ne vais pas le jeter en dessous de l'autobus, là, mais j'ai envoyé un courriel vendredi matin à mon député. J'avais envie de parler à mon
provincial,
député.
Provincial, fédéral?
Mon député provincial. Un député de la CAQ, puis j'avais envie de lui parler, puis de pouvoir lui expliquer ma réalité. Je ne suis pas sûr que ces choses-là se rendent à leurs oreilles. On nous invite à la discussion, on nous invite à parler. J'ai eu droit à un courriel qui disait « On prend une bonne note que vous nous avez contacté, patati patata, automatisé par une machine, puis je n'ai pas de nouvelles de mon député jusqu'à maintenant. »
Donc, ton député au Québec t'envoie un message automatique, puis le premier ministre de l'Ontario te parle directement. C'est quand même deux poids, deux mesures. C'est quand même c'est assez... Bon. Exactement. T'en penses quoi? Oui, c'est deux poids, deux mesures, mais aussi, écoutons, ils n'ont rien à faire en Ontario. Parle à nos médecins.
Hey, c'est
qu'est-ce
spécial.
Tu sais, que le premier ministre puis oui. Le ministre de la Santé parle à un médecin. Voyons donc, okay, j'ai jamais vu ça. Moi.
Ils sont bien désespérés d'avoir des médecins. Mais c'est ça que je me suis dit dans les derniers jours en entendant un médecin dire qu'il textait direct avec Doug Ford. C'est quand même capoté. Plusieurs choses. Premièrement, c'est normal que quand vous écrivez à votre député, vous recevez un message automatique. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas vous revenir. Deuxièmement, moi, je trouve que c'est correct que les médecins parlent directement à leurs députés et tout ça, parce qu'ils doivent donner leur perspective.
Ben oui.
Puis des députés bien informés des deux côtés de la médaille, c'est une bonne chose. Cela dit, je ne sais pas c'est qui son député, mais son niveau de pouvoir sur Christian Dubé doit être assez minime.
Non, en effet.
Moi, j'entends que ça brasse en ce moment là, mm-hmm. à la CAQ, puis qu'il y a quand même des gens qui voudraient qu'on lâche un peu de lest, mais que le ministre et le premier ministre sont extrêmement déterminés. Mais bref.
Preuve, Lionel Carman a démissionné.
Puis on l'a laissé partir.
Donc, même si le député, moi je suis où Martin habite, là, mais je ne le mettrai pas dans le trouble.
Non.
Parce qu'il n'a pas le dire. Là. Mais même si le député de sa circonscription allait parler à Christian Dubé, là, Lionel Carman était obligé de sacrer son camp. Là,
puis
donc,
sur Doug Ford, tu sais, OK, le gouvernement, là, il a fait une loi qui est mal ficelée, on peut la critiquer et tout ça, là, mais c'est quand même un limeux. Là, parce que, je m'excuse, mais c'est supposé être l'ami de François Legault.
Ben oui.
Puis tu sais, il y a une différence entre accueillir les médecins qui veulent faire défection, tu sais, je veux dire, c'est bien correct, mais de publiquement racoler nos médecins, rajouter un 800 Doug Ford, le numéro de cellulaire directement, ouais. Ça va quand même loin. Là. Moi, je pense que M. Legault et Doug Ford à ne plus inviter dans le même party. Là.
Ben, sais-tu quoi? Moi, peut-être vous allez me traiter de rancunier, mais j'ai hâte que l'Ontario soit dans le trouble avec quelque chose puis qu'on appelle les travailleurs là-bas.
T'sais, honnêtement, puis qu'est-ce que tu faisais tantôt? Tu avais la main sur le cœur, tu chantais le Haut-Canada, la l'unité nationale, toutes les choses. Hein? C'est pas
bon,
que...
le caucus Iaccarini!
Puis, dernière chose sur Doug Ford, il voulait être capitaine Canada. Il nous a prouvé que c'est pas capitaine Canada,
non,
Doug Ford. C'est capitaine Ontario.
Oui.
Ses intérêts et ceux de l'Ontario passent avant tout le reste. Puis, tu sais, honnêtement, quand il est question de défendre l'industrie automobile en Ontario, je comprends. Mm-hmm. Quand vient le temps d'aller voler les médecins dans les autres provinces, franchement, est-ce que c'est vraiment nécessaire?
Non,
c'est cheap
ça.
Un peu.
Exactement. On termine avec « C'est encore la population qui va écoper par leur chicane. » Je comprends les médecins, mais la population va payer pour ça, en effet. Et on a également Christian qui nous écrit « Doug Ford se comporte exactement comme Donald Trump. Il a perdu toute crédibilité à mes yeux. » En effet, il se comporte vraiment comme un bully, Doug Ford, à l'heure actuelle. Antonine Iaccarini, merci encore pour hier soir pour l'émission spéciale sur les élections.
C'était vraiment le fun.
Merci pour ce matin d'avoir frappé en relève à Denis Gravel dans le Pit Stop. Demain matin, ça va être Pascal Cévé qui va frapper en relève dans le Pit Stop. On fait les femmes.
Hey,
cette semaine.
On est des remplaçantes.
Il faut qu'on soit remplaçante dans une thématique de femmes, c'est ça que tu veux dire, Jay?
Antonine Iaccarini.
On va être là juste le 8 mars, en tout cas.
Oui, la journée des droits des femmes.
Antonine Iaccarini, Pascal CV. Mercredi, ça va être Catherine Bachand. Jeudi, Véronique Bergeron. Puis vendredi, Audrey Pinchot. C'est une idée d'Yannick Marceau.
Bon, les auditeurs, vous envoyez des messages pour dire que c'est extraordinaire comme semaine.
C'est extraordinaire, certainement.
Mais non, on aime Denis, là.
Je te promets de ne plus chanter l'hymne national avec la main sur le cœur. Tu m'as convaincu avec ce que Doug Ford est en train de nous faire.
Hâte de voir cette promesse.
Je vais continuer à prendre pour les Jays, parce que c'est mon équipe de baseball favorite, mais je ne chanterai plus l'hymne national. On fait une courte pause et par la suite, on termine notre couverture de cette élection municipale avec notre chroniqueur politique municipal, Irénée Rutema. Et Pascal, on va faire un tour des nouvelles. Autre chose que les élections municipales.
Oui, parce qu'il y en a plein d'autres choses. Ouais. On ne fera pas comme la campagne, on ne parlera pas juste d'un point. Le tramway, pour l'instant, là, dans les prochaines 24 heures, c'est derrière nous.
Exactement. Alors, restez avec nous. Vous êtes à l'émission On en jase sur Boulevard 101.
Jusqu'à